France Inter.
C'était une regardeuse de génie, une fervente admiratrice de ceux qu'on appelle les gens de peu et qui élèvent leur vie avec presque rien au rang d'un art. C'était une enthousiaste, une goulue même de la vie sous toutes ses formes. Elle savait tout faire avec ses mains, coudre, broder, cuisiner, bien sûr tenir un appareil photo et une caméra. Modeste, elle disait qu'elle avait eu beaucoup de chance et qu'elle n'avait jamais eu de plan de carrière, mais qu'elle avait rencontré les bonnes personnes au bon moment. Les faits n'ont pas toujours été là, et de ces adversités, elle a fait des avantages pour pouvoir à chaque fois les surmonter et retrouver un art de filmer, de raconter. J'admirais qui elle était, ce qu'elle était. Nous sommes nombreuses et nombreux à la pleurer aujourd'hui, à la fois parce que c'était un artiste, et je pèse mes mots, une artiste de génie, mais aussi parce qu'elle nous faisait du bien. Elle était réparatrice de nos âmes, elle nous cicatrisait les blessures du cœur grâce à la générosité de ses films et à tout ce qu'elle nous offrait. Le temps du deuil n'est pas encore venu. Ce soir, nous allons rediffuser un entretien que nous avons fait chez elle, rue Daguerre, par un beau dimanche ensoleillé. C'était le 29 janvier dernier. Et nous allons rediffuser une émission que nous n'avons jamais mise à l'antenne, que j'avais enregistrée avec elle le 29 juin 2017. C'était au moment du film Visage Village avec son ami J.R. Agnès Varda avait plusieurs vies. Ce soir, premier hommage. Nous reparlerons un peu plus tard, à la fin du printemps, d'Agnès et toutes ses vies. Paix à son âme.
Alors, j'avais écrit les choses dont je peux te parler. Donc, un, j'écris mal. Et deux, je ne me relis pas.
Ah, chanson. Chanson. Alors, je voulais te parler de chanson.
Ah, je voulais te dire que je suis très liée à des chansons de ma jeunesse, je dois dire. J'en écoute moins maintenant. Il y a des gens que j'aime et j'aime bien Camille, j'aime bien... Mais les journées sont tellement variées que je me réfère quelquefois dans une des chansons de Brassens. Il dit plus de 3 fois en un seul jour, content, pas content, content. C'est devenu quelque chose qui est tellement net dans nos vies. Parce que on zappe tout le temps, quoi. Mmh. Entre des émotions, des choses réelles. Et puis tout d'un coup, cette chose, cette beauté, tu vois, une jacinthe que tu m'amènes et son odeur. Et puis tout d'un coup, le chat qui fait un truc rigolo. Je suis tout à fait fascinée par cette espèce de variété non-stop de ce qu'on ressent dans une journée. Je suis beaucoup en référence avec des paroles de chansons. Avec des chansons et des paroles. Et des chansons que Jacques a écrites et quelquefois très très bien écrites. Il y a une chanson dans Les Demoiselles Rochefort qui est extraordinaire. Tu sais, les marins sont bien plus marrants que tous les forains réunis. Les marins font mauvais mari, mais les marins font de bons amants. Marins, amis, amants ou maris, les marins sont toujours absents.
Ouais, c'est dans la scène du café, je me souviens.
Non, ça c'est sur la place, quand les forains ont des girls avec eux et les girls veulent les plaquer.
Ouais.
Et il le dit, parce qu'elles veulent partir avec des marins. Mmh. Alors le forain lui dit, si les roses de notre amour ne fleurissent plus qu'en épines, et si tu préfères l'algue marine, cela ne vaut pas même un discours. Veux-tu pour ça que je t'assassine? Veux-tu que je meure d'amour? C'est joli. Et alors, après, elles s'en vont et tout ça. Et elle répond, elle me fait rire, ça me fait rire la fille. Elle répond, il ne faut pas que tu m'en veuilles, ou je vais me mettre à pleurer. Mon maquillage va couler, et j'ai déjà la larme à l'œil. L'humour de Jacques, avec le rythme de Michel, est vraiment des chansons rigolades. On parle toujours de dramatique, Parapluie de Cherbourg, avec des paroles déchirantes et des musiques déchirantes. Dans les films de Jacques, il amenait avec ses textes, avec beaucoup d'humour, quelque chose de pétillant quand même, qui nous manque. C'est terrible parce que quand la mémoire est vive et qu'on a envie de revivre des souvenirs rigolos, formidables, cinématographiques, bizarres, tout ce qu'on veut dire, on cherche des relais, tu comprends, dans la mémoire. et ils disparaissent peu à peu. Ah, c'est ça, vieillir, évidemment. Et c'est perdre les repères qu'on a d'un temps qui a disparu. Je suis complètement dans le présent. Mais il y a des bouffées de souvenirs. Il y a des moments où ça se pique un peu. Mais je vis beaucoup dans le présent. Et j'allais te dire, c'est ce qui me tient bien. C'est parce que j'aime travailler. J'aime les gens avec qui je travaille. Et ma famille, j'ai de la chance. Ils sont plutôt épatants. Et donc, tu vois, je vais au puce pour voir les cinglés du cinéma. Je vais dans la rue pour rencontrer des gens. J'aime aller au marché moi-même. J'aime beaucoup la réalité de chaque jour.
Donc, et tu as de la chance de pouvoir faire tout ça.
Oui, avec un peu de difficulté parfois. Mais oui, je peux faire tout ça, c'est vrai. Alors justement, par contre, comme je ne peux plus lire...
Plus du tout.
Non. Même avec des lunettes, je vois à peu près rien. Donc ça s'en va. Et j'ai aimé lire, mais je n'ai pas beaucoup de mémoire. Et comme par hasard, les chansons et les poèmes, on les a retenus. Alors, c'est intéressant parce que tu ne peux pas te rappeler un livre entier. Et par contre, évidemment, Aragon, par cœur, tu sais, évidemment, le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. C'est que pleurent dans la nuit nos cœurs à l'unisson, ce qu'il faut de regret pour faire une chanson, et etc., etc. Et j'aime tellement mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure. Je te porte en moi comme un oiseau blessé. Et ceux-là qui me regardent passer, répétant après moi les mots que j'ai tressés pour toi, qui aussitôt moururent, il n'y a pas d'amour heureux. Ah, des choses comme ça. Je sais même du Baudelaire. Et même, tu sais que, quelquefois, avec une loupe, je relis certains Baudelaire pour être sûr que je ne me trompe pas, tu sais, de mots, pour être sûr qu'au moins, je sais le poème complètement par cœur, par plaisir, tu vois. Parce que ce qui reste des livres, ça ne peut pas être le livre entier. Peut-être des passages. C'est vraiment des poèmes. Alors, Prévert, que j'ai adoré, bien sûr. Et les chansons de Prévert après la guerre étaient si importantes, tu comprends. Évidemment, on a tous aimé, tu sais. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. On a tous connu ça, on a tous écouté ça. Et mon temps qui chantait ça très bien. Alors, c'est pas que je ne veux pas intéresser de ce qui se chante maintenant, mais dans les paroles liées d'aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup qui vraiment ont de l'invention, de la fantaisie. Et c'est vrai que Camille, par exemple, elle fait des textes tout à fait exceptionnels. Et un texte qui s'appelle « Je ne mâche pas mes mots », c'est très rigolo. Et parce que c'est tout lié à des images de mangeaille et de mettre ses doigts dans la confiture. Et elle est rêveuse, rigolote. Hein.
Je ne mâche pas mes mots. Je ne mâche pas mes mots. S'il m'arrive d'être foudroyé par l'éclair au chocolat, très souvent je me raisonne avant de replonger mon doigt dans la marmelade aux pommes préparée à cappella. Sur le piano, si la seule vue du miel suffit à clarifier ma voix, l'aspartame à sa mère n'édulcorera pas la colère de voir sous la princesse un petit poids.
Il y a Mathieu Chédid.
Ah, Mathieu Chédid. Mais... Alors, Mathieu Chédid, dont j'aime la fantaisie. Ah, c'est un type bien, moi. Gérard et moi, on a beaucoup aimé que Chédid fasse la musique de Visage Village.
Voilà. Alors, t'avais noté d'autres choses, là, sur ton petit... Et ça te fait plaisir d'avoir cette rétrospective à la Cinémathèque ou pas?
Ah ben,
j'en ai ras-le-bol de toi.
Ah, j'en ai ras-le-bol de moi, ça c'est sûr. Mais il semble que les autres, pas tout à fait. J'ai eu une première rétrospective en 1994. J'avais déjà 40 ans de cinéma dans le dos. Et c'est Dominique Paigny qui m'avait invité. Je ne pensais pas que 25 ans après, il y en aurait une autre. Et tu as raison de dire, s'il y a des gens qui ont envie de connaître les films, on ne va pas les en empêcher. Il y a eu certaines séances qui étaient très pleines. Et moi, j'avais accepté d'aller présenter plusieurs séances.
Il paraît que sans toi ni loi avec Sandrine, c'était formidable, votre dialogue.
Ben oui. Ce soir, je vais avec Jane Birkin.
Oh.
Nous allons co-présenter Jane B. par Agnès V. Et puis ce film qu'on a fait, je ne sais pas si tu l'as vu, c'est un ovni. Hein. J'avais réussi à faire jouer une quinzaine de rôles, dont un dont je me souviens, j'avais dit... Tu devrais faire une danseuse espagnole, parce qu'elle détestait ça. Elle détestait ça. Alors, sa trépignation de colère, ça faisait du Zapatero. Et drôle. Et j'ai gardé de très bons rapports avec elle. Et là, c'est rigolo, parce qu'évidemment, ça fait pléonasme d'y aller toutes les deux. Mais je sais qu'on a attendu. Et je suis très frappée, moi, de la curiosité et de l'enthousiasme des gens qui vont voir les films. Parce que, en fait, ça devrait me flatter, mais ça me fait surtout plaisir. Ça veut dire qu'on ne fait pas du cinéma pour personne. Ça veut dire que le cinéma s'adresse quoi, à des gens. Et il y a beaucoup de jeunes, beaucoup qui ne connaissent pas, qui ont entendu parler de moi, de mes cheveux à deux couleurs, des trucs comme ça. Et tout d'un coup, ils se piquent au jeu. Ils commencent à voir des films. J'ai rencontré deux, trois personnes qui sont venues me dire très gentiment. Vous savez, j'ai vu au moins 15 films depuis que ça compte. Mais ce n'est pas possible. Quelqu'un qui m'a dit, j'ai presque tout vu. Mais vous ne l'avez pas vu avant. Non, ce qui est assez beau, c'est parce que c'est un grand écran, un bon écran. Et que voir le cinéma dans sa splendeur de technique, c'est quand même autre chose que de le regarder sur le téléphone. Et c'est ça qui est le beau travail de la Cinémathèque, c'est d'arriver à emmener les jeunes voir des films dans des conditions de cinéma. Et ça, ça fait plaisir. Et ils sont contents d'avoir du monde. Donc, tout ça, ça se passe dans le fait qu'aimer le cinéma, quoi. Ça amène du partage, du plaisir. Des questionnements, évidemment.
Et quand tu revois certains de tes films, je pense à Sans toi ni loi, je trouve qu'il y a un côté complètement visionnaire sur le personnage qu'interprète Sandrine Bonner. Les glaneuses, c'est complètement visionnaire aussi.
Les glaneurs. Ah, mais c'est-à-dire qu'en l'an 2000, on n'en parlait pas beaucoup de recyclage et tout ça. Et que c'est resté un sujet brûlant, si j'ose dire. Et Sans toi ni loi, tu sais, c'était tout le début. Des filles qui prenaient la route. Et on parle... Tu sais qu'à l'époque, SDF, c'était un terme de police pour dire sans domicile fixe. C'est devenu un terme général pour tous les gens qui rôdent un peu partout. Et puis alors, maintenant, tu vois, il y a les migrants qui sont ajoutés en super SDF. Il y a tellement de gens perdus un peu partout que ceux dont on parle comme ça... Tu sais, j'ai fait un petit film sur les squatteurs aussi. Ça, c'est encore une situation terrible. Parce que déjà, ils sont là, ils savent bien que c'est temporaire. Et puis quand on les chasse de façon dégoûtante, que c'est après quasiment un coup de pied. Alors, il y a toutes sortes de quantités de gens qui souffrent, qui ne sont pas heureux. Et... Alors, je ne suis pas leur chantre, mais je trouve que c'est bien de parler des gens dont
ils ont... Mais comment viennent les idées?
C'est la réalité qui donne des idées. C'est-à-dire, c'est l'émotion que procure la réalité qui te dit... Mais, il faut que j'en parle. Il faut que je les filme. Et justement, dans Visage Village, où il n'y avait pas de revendication, mais juste l'observation de gens qu'on ne connaît pas très bien. Quand on a passé pas mal de temps dans cette usine chimique, qui est même dangereuse, si tu veux, et la gentillesse des gens, leur surprise, au fond, on les faisait rire. Ça leur faisait du bien. Quand je leur ai dit qu'il y avait un château d'eau, tu sais, et on a dit, mais écoutez, il n'y a pas d'eau dedans, mais si on mettait des poissons. Alors on a commencé à dessiner des grands poissons, photographier des poissons, les mettre là. Et ça les fait rire, et ils se disent au fond, les artistes, ça a l'air un peu idiot, mais ça finit par faire quand même quelque chose sur les gens. Une espèce de fantaisie, une idée que la vie n'est pas forcément complètement codifiée, complètement répétitive. Alors moi, évidemment, elle n'est pas trop répétitive, parce que, comme disait Brassens, plus de 3 fois en un seul jour, content, pas content, content, et plus 10 fois en un seul jour, une idée, pas d'idée, une idée, pas d'idée, dodo.
Mais l'imagination, t'en es pas dépourvue.
Non, c'est vrai, pas encore.
Depuis toute petite, j'imagine.
Mais pas tellement. Je trouve que j'ai pas beaucoup d'imagination. C'est juste une façon de regarder qui éclaire les choses, qui les rend plus belles qu'elles sont peut-être. Parce que j'ai jamais pensé à des choses, ni du cosmos, ni du science-fiction. Ça, c'est des gens qui ont vraiment de l'imagination. Moi, j'ai pas ça. J'ai plutôt un regard curieux, un peu amusé, facilement ému quand même aussi. Donc, c'est agréable de ne pas être complètement sec dans la vie. Ouais. Mais je voyage moins maintenant, je ne veux plus trop bouger. Je commence à fatiguer un peu. Mais bon, ça tiendra ce que ça tiendra, comme on dit.
Et l'empathie, on a l'impression que tu as beaucoup d'empathie.
Ben, les gens sont formidables, tu sais. N'importe qui que tu regardes, que tu écoutes un peu, que tu approches, dont tu découvres. C'est même pas les secrets, mais des choses qu'on n'a pas bien regardées. Non, moi j'aime beaucoup les gens, j'avoue que les gens, comme on dit les vrais, tu sais, j'appelle ça les vrais gens.
Mais c'est qui les faux alors?
C'est pas les faux, c'est que les gens qui sont en représentation, les gens connus, les acteurs, et même moi par moment, qui suis en représentation, petit,
ah bon,
petite, grosse, avec mes cheveux à 2 couleurs, je suis un peu une petite caricature.
Tu joues à être Agnès Varda.
Je joue pas, ça se trouve que les gens, ça les fait rire. Mais mon travail est quand même un tout petit peu plus sérieux que ça.
En fait, tu t'habilles et tu te coiffes pour faire rire les gens de ton propre personnage.
Mais ça a commencé à faire rire mes petits-enfants. De pas avoir une mémé râleuse, habillée tout en noir, comme on a eu quand même des grands-mères qui étaient pas... Mais maintenant, ça a changé. Il y a beaucoup de grands-mères qui sont pimpantes, qui sont marrantes, et qui comprennent que par rapport à leurs enfants et petits-enfants, il ne faut pas être tout à fait aplati, quoi.
Mais ils t'appellent Mamie ou Agnès?
Ah, au début, quand j'ai changé de coiffure, ils m'ont appelé Mamita Punk. Et puis maintenant, Punk est parti. Je ne suis plus tellement Punk. Mais ils m'appellent Mamita. Les petits. Alors les grands, ça dépend. Mathieu m'appelle encore maman, Rosalie m'appelle Agnès. Suivant les rapports, il y a des petits-enfants qui jouent. Tu sais, c'est comme ça. Je pense dans toutes les familles, tu sais ce que c'est. On a des rapports différents avec les uns et les autres. C'est-à-dire que c'est pas, rien n'est compact dans les familles, même si c'est un peu compact. Il y a des petits chemins, des petits sentiers qu'on peut toujours trouver pour rencontrer les gens. Et un peu partout. Et je trouve que c'est intéressant de ne pas être disconnecté des autres, quoi.
Mais il y a toujours des personnes autour de toi. À toutes les façons, là où nous sommes... Ce matin, c'est un endroit où tu travailles, où tu dors, où tu prépares la cuisine.
Oui, mais j'ai vécu dans cette maison. J'y suis rentrée en 1951. C'était un taudis, il faut dire. Même dans les plages d'Agnès, j'ai même reconstitué en décor, comme c'était dégoûtant. Mais tu vois, il y avait un petit poêle, et puis un poêle, et puis je prenais du charbon, et puis je le mettais dedans et tout ça. J'ai vécu très, très difficilement, parce que il faisait froid, il n'y a pas de chauffage dans la maison, et que je n'avais pas d'argent, tout ça. Mais j'ai que des souvenirs intéressants, parce que d'être face au froid, à la difficulté, aux choses qu'il faut porter, j'ai trouvé tout ça intéressant, parce que, en plus, ça te rapproche des gens qui ont une vie difficile, même si maintenant je vis comme une poulette en pâte, parce que tout le monde m'aide beaucoup quand même.
C'était pas évident que tu deviennes une si grande artiste. Or, tu l'es devenue.
Oui, et pour le moment...
C'était pas si naturel.
C'est pas trop connu. Hein. Je suis encore dans une marge extrêmement discrète.
Bah, t'es représentée partout. T'es dans la galerie Nathalie Obadia. Tu vas dans les grandes foires internationales,
non,
à la Biennale de Venise.
C'est pas moi qui vais. Par contre, Obadia m'a offert un espace magnifique où j'ai pu construire une de mes cabanes de cinéma fabriquée en pellicule. La cabane du bonheur, elle est belle. Mais qui va acheter ça? Il faut déjà avoir un grand salon pour mettre mes cabanes de cinéma. Non, pour le moment, je fais les œuvres sans me dire si elles sont adaptables, si elles sont vendables. Je fais ce que je sens. Et pour le moment, je suis aidée, puisque je peux le faire. Mais je n'ai pas de prétention. Je pense que exprimée par des moyens divers, comme la photographie, la vidéo, le cinéma, l'espace, les matières, les tissus. Moi, je trouve ça un cadeau qu'on se fait à soi-même. Quand on trouve des gens, et Rosalie, ma fille là, qui fait tout pour que je puisse réaliser ce à quoi je pense, et film ou autre chose, elle est une formidable organisatrice pour trouver l'argent nécessaire. J'ai été très aidée aussi par la Fondation Cartier. Et maintenant qu'il y a une cabane dans le jardin, de façon pérenne, que n'importe qui passe, particulièrement les enfants, vont voir le tombeau de mon petit chat, c'est un plaisir, tu vois, parce que c'est pas lié à l'argent, c'est pas lié au succès. On est dans la vie. C'est une œuvre qui est dans la vie de ce jardin. Ça me plaît beaucoup. Et je suis très aidée par des gens qui me comprennent.
Et la photo, tu continues? Parce que ici...
Ah ben, je vais te montrer une photo. Tiens.
Ah oui, parce qu'ici, c'est comme ça que ça a commencé, l'aventure. C'est par la photo.
Oui. Ah ben oui, mais j'en fais ici. Encore. J'ai fait autrement. Ah oui, la photo, l'image fixe, elle suscite de la rêverie, de l'imagination. Le fait, chaque photo immobile, pour moi, est un questionnement, est une formidable porte ouverte vers les réponses qu'on n'a pas. Justement, les photos instantanées, c'est extraordinaire. Des gens comme ça qui passaient, des gens qui étaient là, qu'on chope, qu'on ne connaît pas, et dont on peut se dire mille choses. Alors, si possible, pour que la photo soit à peu près mise en place, que ce soit un peu cadré, qu'on ait un petit peu envie de la voir, mais c'est surtout qu'est-ce qu'il y a derrière chaque image. Les gens, surtout. Et les gens me fascinent, c'est vrai.
Au fond, tu as toujours saisi tout ce qui était nouveau dans la technique comme une opportunité pour avancer.
Ah ben oui, mais tu sais, j'ai commencé avec des appareils archaïques de photos. Et puis après, évidemment, je peux passer à des choses. Et mais quand il y a eu ces petites caméras, je me suis jeté dessus. Parce que non seulement c'est facile et amusant, mais c'est une autre façon d'aborder les gens. C'est que c'est pas la technique qui est importante. C'est comment un moyen nouveau te fait faire une autre approche de ce que tu vois, des gens que tu rencontres et tout ça. J'aurais pas pu faire les glaneurs s'il n'y avait pas les petites caméras où je pouvais filmer souvent toute seule.
Et sans violenter l'intimité des gens, en s'approchant tout doucement en fait.
Ah ben, faut leur parler. Mais comme c'est un petit appareil, ça fait moins peur. Et puis en plus, leur dire ce que je fais. Je me positionne toujours comme quelqu'un qui fait un documentaire et qui souvent vit dans des conditions bien meilleures qu'eux, mais qui a choisi ce métier. Donc, il y a quand même un partage de réflexion, parce qu'il ne s'agit pas de voler des images, tu vois. Il s'agit d'avoir l'accord de ceux qui comprennent que de montrer leurs difficultés peut-être fait penser les autres, fait penser autrement. C'est toujours les points de vue qu'on a. Moi-même, où j'apprends à faire glisser mon point de vue autrement, par quelque chose qu'on m'a dit, par quelqu'un qui m'a appris, ou quelqu'un qui m'a ouvert une porte. Et donc, j'allais dire que la curiosité n'est pas un vilain défaut. La curiosité est un incroyable moteur d'apprendre et puis de se contenter aussi.
Mais tu es plutôt conciliatrice dans la vie ?
Conciliatrice de quoi ?
Ben, tu cherches pas le conflit, tu cherches plutôt...
Je cherche pas le conflit, mais le monde est en conflit tellement permanent. C'est tellement terrible tout ce qu'on voit. Alors, les nouvelles, c'est plus les catastrophes naturelles. T'as vu qu'il y a de la boue, là, qui a inondé toute une partie du Brésil, les gens qui sont envoyés dans la boue, tu vois. Alors, pourquoi ? Parce que le barrage a rompu, parce que le barrage n'a pas été révisé, parce que, voilà, on tourne en rond tout le temps. Entre ce qui va pas... Et les malheurs que ça suscite, ben on est privilégié, quoi, de ne pas être dans la boue ni dans le malheur. Mais bon, on ne peut pas non plus considérer que pour comprendre le monde, il faut vraiment être dans le malheur qu'on paie des autres. Mais en tout cas, en être conscient, ça permet de se rendre compte que tout est relatif, et particulièrement la situation de chacun.
Savoir voir, tu l'as toujours eu, ce savoir-là?
Savoir, non, je sais pas, peu à peu. Et puis c'est vrai que les autres artistes, les peintres, qui ont ce qu'ils font de la réalité, certains grands photographes, les cinéastes, comment ils traitent la réalité, comment ils l'abordent en rythme ou en regard. Il y a des films extraordinaires, des films de Tarkovsky ou Korismaki, je prends des gens comme ça, tout à fait différents, des gens qui regardent autrement. Godard a été un de ceux qui a fait tout à fait virer la façon de regarder le rythme des choses, comment il comprenait la vie, comment il a... Rappelle-toi un film comme Weekend, comment il épinglait tout d'un coup, mais avec une forme éblouissante, comment il épinglait des choses qui se passaient, comment il remarquait et mettait en plus que lumière, en projecteur, des situations comme le rapport aux voitures, des choses comme ça. Non, il y a eu quand même des artistes qui ont...
Mais il continue, Godard, il est comme toi, il continue.
Oui, je crois.
Il continue à faire des films, des images.
Par contre, je trouve que son travail maintenant est un peu difficile à comprendre, parce que très, très abstrait. Et je pense qu'un peu avant, il avait trouvé une forme où on pouvait accrocher, on pouvait rentrer dans son univers qui est quand même particulier, intelligent, mais des fois un peu raide.
Ben moi, je trouve beaucoup de points communs entre tes films de maintenant et certains films récents de Godard, comme l'adieu au langage, parce que c'est la même obsession de la beauté du monde, mais de la peinture.
C'est surtout continuer à considérer qu'on est un peu des chercheurs
et pas des
systématiquement utiliser des trucs. Moi, à chaque film, j'essaie de faire autre chose, effectivement.
Et le statut de la réalité, vous l'interrogez chacun à votre façon, hein ?
Et moi, dans mes, on peut dire œuvre, puisque c'est comme ça que ça s'appelle quand on fait des choses d'art. Quand c'est pas un produit, c'est une œuvre. Bon. Et chaque fois, justement, dans l'approche de ce que je regarde, comment j'ai pu mettre en beauté et en splendeur ces pommes de terre en forme de cœur, que j'ai gardé ça longtemps pour qu'elles vieillissent, pour qu'elles en dégèrent. C'est-à-dire, par exemple, cette reconnaissance de la beauté du vieillissement, de la beauté du pourrissement.
Du flétrissement,
mais... Alors, il y a une chanson pour finir en chanson. Mon Dieu, fillette, si tu crois que ça va, durer toujours. Alors, bientôt, ça va. Tu vois, la ride, véloce, le muscle avachi. Le texte de Queneau, extraordinaire. Et d'ailleurs, une fois j'ai vu une image où il le lit lui-même. Et ce texte complètement irréel et très beau sur le vieillissement était lu par un monsieur qui avait l'air d'être un professeur de mathématiques avec des lunettes. Et je me disais, toi, dans l'imagination de cet homme ne ressemblait pas à sa figure. Et pourtant, c'est formidable.
Mais je te regarde, t'as pas de rides, je sais pas comment tu fais, t'as pas fait de chirurgie esthétique.
Non, mais...
Ta mère était comme ça?
Oui, ma mère était comme ça. Elle était protestante, très saine, on se mettait rien sur la figure. Elle se lavait à l'eau froide et au savon.
Et toi aussi?
Non. Je vieillis comme tout le monde. Et j'en ai parfois les difficultés quand même.
Peut-être pas comme tout le monde, hein?
Enfin... On verra. Affaire de l'or bleu, réglé.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, yeah.
Manifestement, vous connaissez cette chanson et vous la scandez avec vos mains, Agnès.
J'aime beaucoup l'entendre. J'aimais beaucoup la musique de Doors, leurs paroles, la voix de Jim Morrison et l'accompagnement. Il y avait, sur le moment là, j'ai les mots qui m'échappent, mais le pianiste, c'est formidable. Enfin, toute la troupe était formidable et c'est des gens qui nous ont épatés. Jacques Demy et moi, quand on est arrivé en Californie en 67, il y a toute cette révolution de musique et les groupes bizarres. Tu te rappelles ceux qui s'appelaient Peppermint Butterfly ou des trucs comme ça. Et on a découvert une musique beaucoup plus exagérée, beaucoup plus libre que ce qu'on connaissait en France à ce moment-là, nous. Mais tu m'emmènes en Amérique, mais il y a surtout que People Are Strange. Nous, on a essayé de rencontrer beaucoup de gens dans le film qu'on vient de faire avec J.R. Et on n'a pas cherché les gens étranges. On ne s'est pas senti étranger. C'était au contraire. Les gens sont familiers, ils sont intelligents, ils sont pleins de vie et pleins d'imagination. Donc, c'était rigolo que tu commences avec cette chanson. Parce que nous, on est plutôt pour les gens. Et pas la distance qu'on peut mettre entre eux et nous.
Mais bon. C'est peut-être le même travail hein, que celui de Murmure. Donc, lors de l'arrivée aux États-Unis avec Jacques Demy et celui, le film, donc co-signé avec J.R., Paysage Visage, c'est s'approcher des gens sans nuire à leur intimité, en prenant le maximum de respect, s'approcher comme un chat.
Mais enfin, l'idée, c'était pas de faire questions-réponses, mais des conversations. Et de ces conversations, on gardait essentiellement ce qu'ils avaient dit, parce que mis à l'aise, les gens disaient des choses qui nous ont touchés, qui nous ont amusés, surpris. Et évidemment, c'est ça qu'on transmet aux gens qui vont voir le film. On sert de passeurs, J.R. et moi, de passeurs et de passeuses pour vous présenter des gens.
Êtes-vous étonnée par vous-même, Agnès Varda, encore aujourd'hui?
Ah bon? Comment est-ce que je m'étonnerais?
Ben, je sais pas, parce que ce film est étonnant.
Ah non, mais alors moi, j'ai quelquefois en tête une phrase que Jacques Demy disait dans, je sais pas si c'est dans le live, il disait, aujourd'hui je me sens quotidienne. Et ça m'arrive souvent. Je me dis, je suis que aujourd'hui, je suis pas grand chose. Mais le jour est là. La journée, il faut essayer de l'attraper.
Le jour, c'est quoi? C'est la lumière, le matin?
Oui, d'abord, c'est la merveille qu'un autre jour se lève. Que ce soit pas la nuit, définitivement. Et aussi que chaque jour apporte son lot, quand même. De surprises, de je sais pas, de coups d'œil, de choses qu'on voit, qu'on observe. J'avoue que j'aime beaucoup cette idée qu'un jour commence.
Est-ce que quand vous étiez jeune, très jeune, vous portiez autant d'attention à la beauté du monde?
Ah oui.
Toujours?
Ah oui, ça m'a toujours trouvé, j'ai toujours trouvé ça extraordinaire. Et j'étais jeune photographe, je faisais pas toujours des belles choses parce que je gagnais ma vie en faisant toutes sortes, mais j'essayais dans mes photographies d'attraper quelque chose qui serait en même temps la complexité du monde et sa beauté. Et tu vois, il y a des photographies que j'ai faites dans les années 50 que je croyais être des compositions, mais je me suis rendu compte que des années après, elles racontent encore là où j'étais, ce que j'ai senti et comment on peut transmettre ça, comment on peut créer des images, ensuite des films et ensuite des installations où on peut transmettre à d'autres gens ce qu'on a senti, ce qu'on a découvert, ce qui nous a touché, etc. Le blabla habituel. Mais tous les artistes font ça, à leur façon, avec leurs moyens ou ce qu'ils ont choisi de faire. Donc je me sens juste une artiste parmi des artistes. Et le film qu'on vient de faire, J.R. et moi, on s'est très bien entendu parce que on avait, avec des points de vue, des approches différentes et un âge différent, le même désir de trouver les formes. Alors, on les trouvait par des entretiens qu'on faisait très finement, lui et moi, mais aussi par le fait que pour magnifier les gens, on gardait le meilleur de leurs propos. Et J.R. faisait des photographies, mais on les mettait très grands sur les murs. On mettait, je ne sais pas, là où il y avait eu autrefois des mineurs, des images de mineurs comme des fantômes sur toutes les maisons vides, ou bien, je sais pas, un agriculteur qu'on avait rencontré qui nous avait impressionné. Et tout d'un coup, sur sa grange, qui avait une très belle forme, on le mettait debout comme ça, ouvrant ses mains, comme un homme qui se livrait à notre écoute. Donc, entre les grandes photos de JR et nos entretiens, on a créé un espèce de monde de ceux qu'on a rencontrés dans les villages et qu'on a amenés dans ce film.
Fallait-il, Agnès Varda, partir à l'autre bout du monde quand vous étiez jeune avec votre amie Martine Franck pour pouvoir, des décennies plus tard, revenir et voir la beauté là, sur le territoire français? Est-ce que tout ce que vous avez vu à travers le monde, parce que les gens l'ignorent ça aussi, qu'il y a ce côté voyageuse.
Est-ce que... J'ignore pas parce que j'ai fait un film sur le Black Panthers, j'ai fait des expositions avec photos chinoises et j'ai beaucoup été en France, j'ai fait beaucoup de photographies dans le sud de la France, j'ai travaillé à Sète, j'ai fait un film pour les glaneurs en France. Non, j'ai pas l'impression d'avoir choisi, comme beaucoup de gens qui voudraient passer des vacances le plus loin possible. Je trouve qu'on a un pays formidable. Et quand j'ai pensé à JR, qui était un artiste urbain, je me suis dit, si on fait un travail ensemble, je l'arrache des villes et on va dans les villages, ce qui n'est pas le même rapport avec les gens. Et tu sais, il a un camion magique. Ce camion magique, ça représente un appareil de photo. Alors après, on leur propose, ils la prennent pour chez eux, ou ils la mettent sur le mur. Et puis, l'idée, c'est plutôt qu'ils la mettent sur le mur avec d'autres gens et qu'on crée une espèce de communauté sur les murs de gens qui habitent le même village, qui peut-être n'étaient pas spécialement amis, qui se retrouvent comme une communauté amie. Donc, on crée des liens. Et je pense que c'est ça qu'on aime faire, créer des liens entre nous qui avons fait connaissance tout en cours de faisant le film, mais des liens avec les gens qu'on a rencontrés et des liens avec les spectateurs. Donc, c'est un but qui est tout à fait simple. C'est pas de faire des films avec des scénarios extraordinaires. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas de suspense. C'est une série de rencontres. Nous aussi, justement, on fait ça pour que d'autres gens aient l'impression d'avoir rencontré cette femme qu'on va expulser de sa maison de mineur, rencontrer un type qui part à la retraite, rencontrer des gens qui habitent la maison de leurs arrière-grands-parents, et puis des gens d'aujourd'hui qui sont dans des usines, qui font des travaux difficiles et dangereux, et on leur propose de jouer avec nous, de faire un portrait de groupe, et JR les fait danser, les bras d'un côté, de l'autre. C'est-à-dire, dans le quotidien des autres, nous permettre d'arriver avec des idées, des fantaisies, et leur demander de participer pour que on amène dans leur vie quelque chose qui tout d'un coup est un petit moment, une fête, une après-midi, un portrait. Et au fond, les gens des fois aiment bien être distraits de leur vie quotidienne qui est des fois difficile. Et on amène un petit peu de, je peux pas dire de folie, mais de fantaisie quand même.
Alors des films, Agnès Varda, vous en avez fait des centaines.
Tu me vois maintenant, il y a 50 ans qu'on se connaît.
Bon, ben à la radio, je vous vois.
Ben, vous voyez, mon ami, moi, je te tutoie.
Ben, on verra. Moi, j'ose pas vous tutoyer dans la vie, oui, peut-être, mais là, on est à la radio.
Mais quelle est la différence, la vie, la radio, le cinéma et la vie? Allons.
Ah, ça, ben, justement, c'est une des questions que je me suis posée. Je me suis dit, bon, allez, JR, Agnès Varda, c'est une belle affiche, ça doit être un beau film, mais est-ce que ça sera aussi bien que Les Glaneurs et les Glaneuses, que j'ai vu, je crois, 8
mais
fois?
Mais on fait pas la compète avec soi-même. C'est pas le même sujet.
Ben, un peu, si.
Ben, les glaneurs et la glaneuse, il y avait un sujet très grave qui était, nous allons filmer des gens qui mangent ce que nous jetons. Donc, c'était quand même grave, le fait de récupérer dans les poubelles, de ramasser par terre, cette espèce de recyclage du surplus de consommation, c'était un sujet assez précis. Même s'il y avait surtout des rencontres, et j'essayais aussi de faire connaître les glaneurs aux gens des salles obscures. Mais là, ce sont des rencontres. Mais surtout, ce qui était nouveau, c'est que j'ai jamais travaillé à deux, et JR non plus d'ailleurs. Et nous avons eu cette découverte l'un de l'autre, et je suis tout étonnée parce que c'est la première fois que je fais un entretien toute seule. Je me sens pas très bien parce que on est toujours ensemble, on se contredit, on se croise, on se renvoie la balle. Et là, je me sens un peu perdue.
Ben, c'est très étrange de voir le rapport qui s'est institué, en tout cas devant la caméra, dans le champ, comme on dit au cinéma, entre JR et toi. y a une sorte d'affection réciproque. Il te prend un peu sous ses grandes épaules, cet adolescent maigre et assez frêle. On a l'impression qu'il te coucoune, il te protège.
Oh, il se moque beaucoup de moi toi. Quand même. Il me taquine beaucoup.
Pas tellement.
Oh, ben si.
Respect total quand même, Agnès Varda.
Pas du tout. Dans le film, pas du tout. Tout le temps, il me dit.
Ah, moi, je trouve qu'il est très tendre.
Il m'envoie
des piques.
Et toi,
tu files droit devant lui.
Oui, il m'envoie des piques parce que j'ai deux défauts à son point de vue. Je suis trop petite et trop vieille.
Mais, non, il aime bien ta vieillesse.
Ah, il aime bien les vieux parce que il a montré, il a fait des énormes photos de vieux à La Havane, dans d'autres pays. Il a voulu me présenter sa grand-mère. Il aime beaucoup les vieilles. Il a été élevé par des vieilles, donc.
On la voit, la grand-mère.
Oui.
Elle est belle.
Mais j'avais été la voir avec lui. Et je trouve amusant un jeune homme qui est pimpant comme ça, qui est même à la mode, avec lunettes noires, chapeau noir, qui représente vraiment une personnalité d'aujourd'hui, comme ça. Et qui fait des choses d'aujourd'hui dans la rue avec les gens. Et qu'il ait ce souci des vieilles personnes, et cette affection, et cette tendresse. Je suis bien tombée, j'ai eu de la chance.
Revenons sur les lunettes, Agnès. J.R. porte des lunettes. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir le rencontrer, même dans l'interview, alors qu'il n'y a pas besoin de porter de lunettes, il porte des lunettes noires. Dans la vie, il porte des lunettes noires. Et dans ce film, Paysage, visage, ça revient à plusieurs reprises. Tu essayes de le faire baisser ses lunettes noires, parce que ce que tu voudrais voir, c'est son regard.
Ben, le film, c'est sur le regard. Notre regard sur les gens, les regards des gens. Et évidemment, c'est un jeu, ces lunettes noires, qui m'a évidemment tout de suite fait penser à Godard, que j'avais connu aussi, avec des lunettes noires comme ça. Et moi, ça me plaisait pas. Je dis à Jean-Luc, mais monte tes yeux. Même toi, je sais pas pourquoi t'as des lunettes noires.
C'est des lunettes de vue.
Mais on est dans un studio, tu pourrais avoir des
lunettes. J'ai des notes, là, je les utilise pas.
Mais tu peux avoir des lunettes de vue blanches.
Ben oui, mais ça me fait mal aux yeux. Voilà, j'en ai fait.
Là, je vois tes yeux, ça me fait plaisir. Et J.R. on voit ses yeux quand il n'y a pas d'appareil photo, quand il n'y a pas de caméra. Donc, il a décidé d'avoir ce personnage comme ça. Mais c'est pas mal dans un film, parce que on est un petit peu, disons qu'on filme un sujet sérieux, social, des gens qu'on respecte, et nous on fait un petit peu les clowns. On est un peu des marionnettes, lui avec ses lunettes, moi avec mes cheveux de deux couleurs. On fait un peu distraction sur ce sujet très sérieux. Est-ce qu'on peut rencontrer les gens? Est-ce qu'on peut arriver à capter quelque chose de quelqu'un, ce qui est son essence, son originalité, comment chaque personne est unique, comment elle a quelque chose à dire, que nous arrivons à entendre, que nous écoutons et entendons. Donc, on a réussi à amener dans le film des surprises, et on attendait que le hasard, enfin, on préparait où on allait, qui on allait voir, et puis tout d'un coup, le hasard nous apportait des rencontres, des gens qui disaient des choses. Moi, j'ai été tout à fait charmée en étant quelque part dans une usine. Et tout à coup, on voit un type très bien habillé. Et je m'étonne un peu. Je dis, vous allez à une fête? Il dit, oui, je fête avec mes camarades mon dernier jour d'usine. Il partait donc à la retraite le soir même. Ce que ce type a dit sur son dernier jour de travail et comment il allait se sentir quand il quittait l'usine, eh bien, ça m'a fait comprendre qu'on ne comprend jamais rien, on discute tout le temps. Alors, la retraite, à quel âge, quelle somme, combien de trimestres, combien de ci, combien de ça. Et tout d'un coup, voilà un homme qui dit simplement, aujourd'hui, j'arrête de travailler et j'ai l'impression que je suis au bord d'une falaise et que je vais tomber. Alors, tu vois, on entre par l'intérieur de ce que les gens sentent et on a de la chance qu'ils aient bien voulu nous le dire. Je pense que c'est comme ça, en faisant des documentaires, qu'on comprend un petit peu mieux la vie des autres. Et autant J.R. que moi, on a ce goût-là d'entendre ça et d'en profiter au bon sens du mot, c'est-à-dire, ah, on est un petit peu moins stupide, on est un petit peu moins obtus, on essaie de comprendre les autres. Et qu'est-ce qu'on a d'autre à faire dans la vie qu'essayer de comprendre un peu les autres? Dans ce chaos du monde, dans cette pagaille généralisée, malheur généralisé, drame, migrant, tout ce qu'on peut dire, ben, si on peut être un petit peu en paix avec les gens qu'on rencontre, ben c'est ça qu'on a essayé de faire dans ce film, de le situer hors de tout débat, hors de toute politique. On ne leur a pas demandé pour qui ils votaient ni ce qu'ils faisaient de leur billet de vote. On a essayé de voir si les gens étaient contents de parler à d'autres gens, de parler avec nous, de laisser passer en eux ce qui est important et unique. Et on a été gratifiés de leur confiance. C'était gai à faire, même si parfois c'était triste. J'ai remarqué les gens sourient, puis ils ont un peu d'émotion. Donc on veut amener et de l'émotion et de la surprise et être enjoué quand même.
On s'assoit dans le noir, on sait qu'on va voir un film, on sait qu'Agnès Varda est une grande cinéaste, on a déjà été très ému par de nombreux films d'Agnès Varda. Et puis, on se dit, c'est peut-être un coup publicitaire, même si Agnès Varda n'aime pas les coups publicitaires. J.R., Agnès Varda.
Et comment puis, tu peux dire que c'est un coup publicitaire?
Non, mais c'est une belle affiche.
Mais
une
non,
belle
mais affiche. Il n'y a pas une marque dans le film, il n'y a pas un sponsor, il n'y a pas un logo.
Mais laisse-moi
c'est
continuer.
C'est pas Interville, hein. C'était vraiment, on arrive, on ne veut aucune... Si par hasard, il y avait une chose écrite, on l'enlevait. On se veut... J.R., il signe même pas ses trucs. Et il veut jamais être soutenu par des marques...
C'est pas ça que je voulais dire, Agnès. Je voulais dire que quand on s'assoit pour aller voir ce film, on se dit, l'affiche est très très belle, très attirante, mais qu'est-ce qu'on va voir? On va peut-être pas être aussi étonné et aussi ému que ce que j'ai vécu, et je pense que de nombreux auditeurs vont être comme moi. C'est-à-dire, scié par la beauté des visages, par la beauté de l'expression des personnes que vous avez rencontrées, et par ce sentiment que j'ai ressenti, mais je ne suis pas la seule, d'élévation en écoutant ces personnes qui deviennent des héros du quotidien. Alors c'est un film, certes c'est un film qui est le reflet de la réalité, mais c'est quand même un film qui a été monté, qui a été construit.
Alors c'est un documentaire, c'est un film documentaire. Il faut pas oublier qu'un documentaire, c'est qu'on est au service des gens qu'on a filmés. Et même si nous, on a raconté notre amitié grandissante, la découverte de l'un l'autre, le fait qu'avec tellement d'années d'écart, on ne ressentait pas du tout ça, on avait l'impression qu'on était des camarades de travail, toutes ces choses que les spectateurs remarquent, elles sont au service de rencontrer des gens et de créer des situations qu'on a voulu un peu exceptionnelles. Quand dans les docks, où il y a des glaneurs qui sont des types très forts, on a l'impression que c'est la mafia des dockers et tout ça. Et quand gentiment j'ai dit « Mais où sont vos femmes ?» et que tout d'un coup s'est créée toute une histoire. Qui sont ces femmes? Qu'est-ce qu'on a fait avec elles? Comment on les a mis en valeur? J'avais une phrase, j'ai dit « Une femme c'est bien, mais une femme debout c'est très bien. » Cette idée que les femmes debout, c'est une image, c'est un totem, et dans ma vie, et dans la vie d'hier d'ailleurs, qui a fait un film sur les femmes qui s'appellent Women Are Heroes. So, cette idée que dans ce monde macho quand même et plutôt fait sur la force et la puissance et la représentation, on s'intéressait presque plus aux femmes qu'aux hommes, ou bien alors à des hommes paisibles, un facteur, un agriculteur. C'est un choix de documentaire et c'est un peu un projet paisible.
Tu dis hasard, hasard,
non,
c'est
non,
beaucoup de travail
non,
quand même
hasard.
En amont.
C'était des points de chute, et après le hasard nous a servi des rencontres magnifiques. Parce que comme toujours, il faut trouver sans chercher, tu sais, c'est ce grand principe.
C'est Picasso ça.
Oui, mais c'est ce qu'on voulait. Le hasard nous a servi. On était à l'écoute, on avait les oreilles qui tournaient les coins, les yeux qui tournaient les coins peut-être. C'est-à-dire, ce qui pouvait arriver... D'ailleurs, il y a une image du film qui m'a beaucoup fait rire. On s'arrêtait quand c'était beau et on voit un troupeau de moutons au milieu du champ. On regarde ce troupeau, on le filme attentivement et on voit que tout le bord du troupeau s'agite énormément, tourne comme ça. Comme une bizarre ronde avec ceux du milieu qui bougent pas. Bon, on a filmé ça, c'est dans la boîte. Évidemment, on parle à des bergers. On leur dit, mais qu'est-ce qu'ils ont ceux-là? Et ils ont dit, ah mais vous savez, c'est toujours comme ça, c'est les jeunes qui mènent la ronde. On s'est dit, suivez mon regard. Est-ce que c'est le jeune JR qui emmène la vieille, qui bouge pas? Et on a ri, mais... C'est-à-dire qu'on était des fois servis par des images presque significatives qu'on prenait à l'envers en riant. C'était bien pour ça. Par exemple, moi j'ai un peu de difficulté à monter les escaliers. Alors il était plus haut que moi. Dépêche-toi, grouille. Donc ça me faisait rire parce que je peux pas me grouiller, j'arrive pas à monter. Donc il y avait cette idée de nos rapports un petit peu amusants, conflictuels, un tout petit peu... Mais c'était toujours au service à qui on va parler et qui va nous parler. Et quelle image peut-on proposer? Quelle belle image peut-on proposer? Pour que, même quand elles vont s'effacer, il y a beaucoup de collages qui ont été faits, dont un qui a été balayé par la mer. En les captant dans le film, on vous les met en mémoire et vous savez qu'elles ont disparu. Donc, ce travail entre l'oubli et la mémoire, c'est quelque chose d'intéressant.
Quand je vois dans tes mes yeux d'enfant que je deviens con. Tout petit, tellement je suis un grand, grand petit con. Quand je vois dans tes yeux d'enfant que je deviens con.
Je vous passe devant, j'étais là avant vous, vous ne m'aviez pas vu. Je n'ai pas une minute, à moi ni à personne, je suis mon propre but. Au grand petit con.
Quand je vois dans tes yeux d'enfant que je deviens con.
C'était M et son titre « Grand petit con ». On ne se lassera jamais d'Agnès et d'Agnès Varda. Merci à Élodie Royer, Anne-Sophie Dazard et Antoine Joubert et à Lilian Allôme qui a réalisé cette émission.